Bernard Cambon se fout de ma gueule.
Non.
Si, je fais applaudir le public.
Non, mais voilà, chef d'orchestre.
Qu'est-ce qui vous fait rire, Bernard Cambon?
C'était ce côté chef d'orchestre. Ce truc qui te va très très bien.
Mais
bravo,
c'est un
Anne.
Merveilleux public, moi je
trouve. Ah ouais, il est super.
Un public à fond.
Alors, Isabelle Carré, j'ai étudié un peu votre vie.
Ah ouais.
C'est pas évident quand même. Hein.
Ah oui.
Ouais, quand même.
Elle a bien joué psychologue.
Je m'en rends compte parce que, bon, quand on est dedans,
c'est un peu compliqué. Hein. Vous avez. vos parents étaient un peu spéciaux.
Au départ, j'ai écrit un livre l'année dernière.
Qui a très bien marché, Les Rêveurs, et qui vient de sortir en livre de poche d'ailleurs.
Voilà,
un très joli livre.
Je raconte un petit peu. C'est un roman autobiographique, c'est-à-dire que je m'éloigne beaucoup de la vérité quand même. J'ai pas voulu écrire un récit ni un témoignage. C'est vraiment. Je suis partie de faits réels, mais après je suis permis d'aller vraiment ailleurs.
Donc à 15 ans, vous apprenez que votre père est homosexuel, vos parents divorcent.
Ça, c'est vrai.
À 14 ans, vous aviez fait une tentative de suicide.
Aussi, à cause d'une histoire d'amour ratée. Je crois que le mec avec qui j'étais est amoureux de moi, et en fait, non, c'était juste un pari. C'est un petit peu mal.
C'est
un petit peu dur, ouais.
Ah non, comment il s'appelle cet enfoiré?
Non, je dirais pas. Je dirais pas son nom, mais oui, il m'a fait
méchant.
Un petit peu de mal.
Méchant. Vous l'avez revu? Ouais. Vous l'avez revu?
Non, je l'ai plus revu après, et c'était mieux comme ça.
Et vous, Bernard Cambon aussi, vous faites un travail spirituel, vous êtes très proche d'Alexandre Jolien, le philosophe.
Je disais à Isabelle tout à l'heure, parce qu'on parlait de son suicide, que moi aussi, on a pas mal de points comme ça. Moi, j'avais fait une petite tentative, alors un peu plus âgée, 17 ans.
C'est une histoire d'amour aussi, vous vous rendez compte?
C'est pas vrai.
C'était des amours de vacances, alors le premier été, c'était super, et le deuxième été, elle m'a dit non. Oh, c'était dans les Hautes-Alpes, et donc...
L'année d'après, elle n'a plus voulu de vous?
Voilà, mais enfin, je simplifie parce que c'était quand même un peu compliqué. Mais en tout cas, et puis il y avait une soirée chez elle. Et donc, du coup, j'avais décidé de mettre fin à mes jours. Donc, dans la cave du grand-père, j'avais pris de la Morora. J'avais mis dans mes poches.
Mais elle n'a pas marché, Dieu merci.
Et je buvais du jus d'orange pour que ça passe, parce qu'il faut quand même les avaler, les grains de blé avec le truc rouge. Et puis le soir, j'ai écrit une lettre d'adieu à mes parents. Vous me retrouverez, quand vous me reverrez, je serai mort, etc. Et le matin, je suis réveillé, j'étais vivant, et j'ai pas de mal au ventre, rien du tout. Je dis à mon frère aîné, qui me dit « Attends, mais il faut te faire un lavage d'estomac. » Je dis « Non, au secours, le dis pas, je te jure, tout va bien. » J'ai jamais compris, ça devait être périmé, la morora.
Ça a pas marché.
Voilà. La mort ne voulait pas de vous.
Bien raté, la mienne.
Voilà, j'étais peut-être juste des céréales, en fait.
J'ai voulu me suicider au Kellogg.
Heureusement que vous avez raté tous les deux.
Donc vous avez quand même tous les deux, Bernard Cambon et Isabelle Carré, une forme d'hypersensibilité.
Ou des histoires d'amour un peu décevantes.
Bah, puis aujourd'hui quand même. Vous êtes tous les deux stabilisés, heureux, épanouis. Voilà.
Et ça, c'est un message pour tous les adolescents qui ont des histoires d'amour compliquées.
Non, mais c'est vrai.
Attendez un peu, ça va mieux après.
Et pour les vieux qui ont des histoires d'amour compliquées, comment on fait?
Mais c'est ça que raconte aussi la pièce, c'est qu'on a droit à une seconde chance. La pièce vraiment parle de ça. Voilà, ils ont déjà une vie derrière eux, mais ils ont quand même
des blessures,
des secrets, mais ils trouvent quand même l'amour, quoi, au bout du compte. Donc il y a toujours moyen, en fait.
Ben H a des choses à vous dire.
Oui, tout à fait. Anne Romanoff, dans cette émission, j'ai été voir la pièce. Hein, je suis un petit peu l'homme de terrain. Votre chroniqueur d'investigation, le Bernard de la Villardière de l'équipe, n'hésitant pas à se rendre au cœur de l'événement, par exemple dans le sublime et historique Théâtre de la Renaissance, qui, comme son nom l'indique, date de la fin du 19e siècle. En effet, Anne, j'ai changé. Fini le chroniqueur prépubère assoiffé de jolis invités. Fini les portraits de cutards compulsifs. Terminé les petites blagues faciles et toujours orientées. Désormais, mesdames et messieurs, dans cette émission, j'endosse le rôle de critique théâtre. Du coup, permettez-moi que je mette mes lunettes d'intellectuel pour une chronique plume et strapontin ce midi. On est mardi.
Il n'y a pas de verre. Il n'y a pas de verre à ces lunettes.
Non, c'est des lunettes de théâtre. On est mardi. On est mardi soir sur un boulevard parisien. Je rejoins la jeune fille qui travaille à la production de l'émission sur les quelques mètres qui nous séparent du théâtre. On parle de vous, Isabelle Carré et Bernard Cambon. On dit qu'on vous adore tous les deux. Isabelle Carré, moi, j'ai craqué depuis le film Les Émotifs Anonymes. Puis elle me parle de Bernard Cambon. On cite alors quelques répliques des cultes des inconnus. On rit. Je conclus l'échange par une réplique de Joséphine Ange Gardien, dans lequel joue aussi un inconnu. Elle rit encore. Je me dis alors, que si tout se passe bien ce soir, la dégustation, c'est pas que le nom de la pièce. Mais toute une soirée à thème. Puis vient le lever de rideau, Bernard Compan fait son apparition. Rapidement, Isabelle Carré le rejoint. À cette seconde précisément, et pour la première fois de la soirée, je suis directement envoûté par autre chose que le décolleté de ma collègue. Non, à ce moment-là, je suis juste sous le charme de deux personnages, Jacques et Hortense. Sous le charme d'une rencontre au hasard de la vie. C'est drôle, c'est tendre, c'est touchant. Et là, je ne parle plus de vos filmographies respectives, mais de l'ensemble de cette pièce qui m'a beaucoup fait rire et a fini par me cueillir. Deux personnages que vous habitez parfaitement, des seconds rôles hilarants, abordant des sujets délicats, voire carrément douloureux, tout en accomplissant la mission première d'une comédie sentimentale. On sort avec le sourire et la ferme attention de tomber amoureux. Et en bonus, dans le cas de la dégustation, on a très envie d'aller picoler. Du coup, porté par l'euphorie que vous m'aviez transmise, en sortant du théâtre, je me suis tourné vers la jeune fille et je lui ai tenu ces quelques mots. Oui, là, un jeune homme est venu jouer de l'accordéon, non loin de nous. Je l'ai regardé dans les yeux, façon comédie romantique, et je lui ai dit, tu vois, c'est fou l'amour parfois. Il se cache chez un caviste au coin de la rue et parfois on l'a sous les yeux, presque tous les jours. On le voit pas. C'est peut-être le mec qui te vend du vin, comme le mec avec qui tu bosses, par exemple. C'est là qu'elle m'a interrompu pour me dire, toujours les yeux dans les yeux, je prends un RER, tu passes par où, toi? On va pas se mentir, sur le coup, j'ai dégusté. Tout comme vous, sur scène, ce soir-là, j'ai bu beaucoup de vin. Dommage, avec vous, la soirée avait si bien commencé.
Alors Bernard Campan, votre père était professeur d'italien, votre mère prof de français, et vous, cancre.
D'où la douleur d'être cancre quand on est fils de prof et que moi, naïvement, d'ailleurs, j'ai redoublé ma quatrième. Je pensais pas pouvoir redoubler un jour, mais tout simplement parce que je me disais, mais je suis fils de prof, je peux pas redoubler.
Ils ont dû dire la même chose.
Et ben oui, puis eux, ils m'ont pas trop surveillé. Je disais que je faisais mes devoirs, je devais pas les faire, ou je comprenais rien, mais ça me posait pas de problème.
Là, vous avez des rapports très difficiles avec votre frère et vous êtes redevenu ami au moment de la mort de votre père.
Tout à fait.
Et c'est quand même bizarre parce que dans votre carrière professionnelle, vous avez eu des frères, on peut dire les trois frères, vous avez fait les trois frères, les inconnus.
J'ai toujours aimé travailler en groupe, j'ai toujours eu besoin de ça, ou parce que j'étais...
Même Le cœur des hommes, c'était un film de groupe aussi.
Oui, ou parce que j'étais leader, on va dire, ou parce qu'au contraire, à partir du moment où je me suis senti plus du tout en confiance avec moi-même, parce que j'ai eu besoin des autres pour m'accrocher aux autres pour faire quelque chose, quoi.
Maintenant, vous avez confiance en vous, Bernard Campan?
Toujours pas, mais alors... mais ça ne pose plus de problème. C'est ça, la différence, c'est que...
Isabelle Carré, vous avez confiance en vous, maintenant?
Bah pareil, c'est assez fluctuant, mais disons que je regarde pas ça à la loupe, quoi. J'essaye de penser à autre chose.
Mais le succès de ce livre a dû vous faire plaisir quand même, de se livrer aussi intimement.
M'a énormément touchée, oui, vraiment, parce que je pensais pas que cette histoire recevrait un tel accueil, et ça c'est... Puis c'est autre chose aussi d'aller dans les rencontres en librairie, de parler avec les gens. Quand on joue au théâtre, parfois il y a des gens qui vous attendent et qui vous disent des mots gentils, ou quand on présente un film, mais c'est encore une autre façon de rencontrer les gens.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens dans la rue, Bernard Campan? Ils vous parlent encore des inconnus, toujours, ou pas?
Oui, bien sûr, des inconnus, mais je dirais qu'en premier, il y a les inconnus, et très souvent, en deuxième, c'est se souvenir des belles choses, très souvent, ou le cœur des hommes.
Ça pourrait faire un film, d'ailleurs, cette pièce?
Ça faudra demander à Yvan, puisqu'il a déjà adapté au cinéma l'étudiante et
Monsieur Henri.
Mmh. Il a écrit son livre Venise n'est pas en Italie, il en a fait un film aussi.
Qui vient de tourner avec Benoît Poelvoorde.
Qui vient de terminer, et puis voilà, bah, pourquoi pas, on lui fait confiance. Hein.
C'est une pièce qui ouvre le cœur.
Oui, et qui rend léger.
Je ne sais pas si elle va vous rendre légère et vous ouvrir le cœur.
J'ai des gros doutes, mais
enfin moi. Là, on doit des questions à vous poser.
Isabelle Carré, Bernard Campan. Alors, dans la pièce La Dégustation, Isabelle tombe sous votre charme grâce à une dégustation de vin. Je vous ai donc préparé une interview à point. Le but, c'est de ne pas en perdre. On demandera à l'autre si la réponse est juste. Bernard Campan, quel est le moment que préfère Isabelle Carré dans la pièce, à votre avis?
Ça, vous le savez, vous, elle vous l'a dit, vous?
Elle dira la réponse, on va voir si vous perdez du poids, des points.
Oh, je pourrais dire la scène de la dégustation quand on se saoule.
Non, c'est quand je danse avec toi.
Un point au moins.
Vous dansez quoi?
Un slow.
Vous aimez les slow, Isabelle Carré?
J'adorais l'idée du quart d'heure américain.
Mais moi aussi,
vous vous souvenez quand il y a tout ça? Quand on faisait des booms.
Mais c'est pour ça qu'on
n'était pas obligé de danser avec celui avec qui on n'avait pas du tout envie de danser. On pouvait même choisir celui avec qui on voulait.
C'est vrai, ça manque, hein, ça manque vachement. Bon. Alors,
souvenir.
Exactement. Isabelle Carré, ce que fait Bernard Campan juste avant d'entrer sur scène?
Il nous rejoint en fait sur notre côté à nous parce que c'est très injuste en fait. Lui, il est d'un côté de la scène, donc à court, côté cœur. Il est à court et nous, on est à jardin tous. Ouais. Et alors, il nous rejoint, il fait le tour du plateau et il dit mais je veux pas être un peu avec vous. Je suis tout seul là-bas, je m'ennuie un peu.
C'est ça, vous le faites tous les soirs, Bernard Campon ?
Ah oui, assez régulièrement parce qu'on nous dit alors on va y aller. Alors on se sépare et puis on attend, puis enfin, pas tout de suite. Attendez.
Bernard Campon, ce que fait Isabelle Carré juste après sa sortie finale de scène, à votre avis ?
Je me mouche.
Donnez pas la réponse avant.
Ah ouais, c'est vrai.
Parce qu'il y a une scène très émouvante. C'est Bernard qui me fait pleurer d'ailleurs.
Ouais.
Et du coup, j'essuie mes larmes.
Et vous pleurez vraiment tous les soirs, Isabelle Carré ?
Je sais pas comment elle fait.
C'est incroyable. L'émotion
arrive, ça se transforme comme ça. C'est assez étonnant. Ouais.
Isabelle Carré, quelle est la réplique la plus drôle de Bernard Campon dans la pièce selon vous ?
Il y en a tellement, je ne peux pas choisir une seule.
Alors Bernard, ce serait laquelle ?
Grosse semaine.
Ah oui, grosse semaine. Ah
ouais. Ouais.
Voyez, mais il faut comprendre.
Il faut comprendre la place qu'il y a avant. Oui.
J'imagine. Ok, on ira voir pour savoir pourquoi. Bernard Campon, et vous, la réplique la plus drôle d'Isabelle Carré dans la pièce, selon vous ?
Aucune.
C'est moi qui les ai toutes.
C'est là qu'on sent un malaise.
Pour moi, c'est Javal, vous serez prévenus.
Ah, oui, effectivement. Voilà. On voulait la passer sous silence, mais.
C'est Isabelle Carré qui dit Javal. D'accord.
Javal, vous serez prévenus. Hein. C'est vraiment le vous serez prévenus qui m'a retourné.
Isabelle Carré, est-ce que Bernard Campon s'y connaît vraiment en vain dans la vie ?
Oui. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir encore une fois sur le tournage de Se souvenir des belles choses, qu'il avait fait une dégustation de vin déjà à l'époque et où il avait amené des vins complètement incroyables, dont un vin qui est devenu mon préféré.
Ah oui ?
Et pas des moindres. Déjà un Saint-Julien, il y a un Saint-Julien dans la pièce. Et c'était un Saint-Julien Léoville-Lascazes.
Mmh.
Il y avait aussi un autre dont je me souviens très bien. Ah ça, je ne me souviens pas de l'année. Mais je me souviens d'un autre aussi que j'avais adoré, dont le titre est très beau, le Château Chasplin.
Ah, le Chasplin, c'est mon préféré aussi.
Ouais, on est d'accord.
2010, très bonne queue. Bon, on ne lui fait pas perdre de points. Alors, Bernard Campon, vous trouvez que dans la vie, Isabelle Carré est drôle malgré elle, comme le personnage d'Hortense ?
Oui.
Ouais.
Oui,
oui. C'est le malgré elle, en fait.
C'est le malgré elle qui change tout. Oui.
C'est drôle, si elle le veut, mais aussi malgré elle. Parce qu'elle a vraiment comme ça des petites sorties de route. elle rit d'elle-même aussi beaucoup, Isabelle. Elle dit, je vais dire un truc, mais je suis sûr que ça va faire un gros flop. Elle se marre elle-même de... Non, elle est...
Alors, question pour vous deux. Comme la pièce s'appelle Dégustation, sous-entendu de vin, mais pas que, à quoi auriez-vous envie de trinquer aujourd'hui, Bernard Campon et Isabelle Carré ?
À nos retrouvailles.
Bah tu m'as ôté le mot de la bouche.
Ils sont choux, on a envie qu'ils soient en cours.
Alors Jérémy Frérot, c'est votre premier album solo. On vous a connu avec Frérot de la Vega en duo. Alors c'est dur de se retrouver seul après avoir...
c'est différent, ça peut être dur. Ouais, il peut y avoir des moments de doute.
Vous dites que pour les interviews, au début, vous aviez du mal tout seul.
Ouais,
d'habitude, c'était lui qui répondait.
Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est lui qui construisait plutôt l'interview. Moi, j'étais plutôt là pour agrémenter et faire joli. Je disais plutôt plus de conneries qu'autre chose. Donc, y avait aucune construction. Et les premières, quand je suis arrivé, je m'étais jamais posé la question et c'était assez compliqué. Ouais.
Et la scène tout seul, ça s'est passé comment ?
Et la scène, je l'ai un peu plus préparée. Je savais que ça allait être chaud et qu'il fallait que je travaille. Et ça s'est super bien passé. Là, on a fini la tournée d'automne et c'était trop trop bien, quoi. On a joué 11 dates, on a fini à la Cigale la semaine dernière et on a
le
vraiment...
public est venu, même si vous étiez tout seul.
Bah ouais. Et c'était le public des Frérots parce que ils ont les places sont parties
aussi vite que pour quand vous étiez à deux.
Ouais,
du coup, vous gagnez plus d'argent tout seul.
C'est un côté business.
Deux fois plus. Non, mais c'était les gens des Frérots parce qu'on n'avait pas fait de pub et les salles se remplissaient quand même.
Ah, ça, c'est génial.
Ouais, c'était
et
super.
Pourquoi vous avez arrêté ? Parce que lui se sentait pas bien, c'est ça ?
Lui en avait marre, ouais.
Marre de vous ou marre de.
Non, marre de
du système. De...
De tout ce qu'il y a en dehors des tournées. Quoi. C'est vrai, le
showbiz,
business,
tout ça. Voilà. D'être aimable avec les gens, faire des interviews le matin, des choses comme ça.
C'est un peu ça. Ouais.
Et vous y arrivez à faire tout ça ?
Je ne sais pas si j'y arrive. Bon, en tout cas, j'arrive à gérer un peu plus, peut-être. Ouais. Et puis, je me suis dit aussi que quitte à. enfin, on a une place qui est très, très rare. Et il faut la garder.
C'est très difficile d'avoir du succès en effet dans la chanson. Donc là, vous avez un succès.
Juste la place devant ce micro, il y en a pas beaucoup qui peuvent l'avoir. Donc il faut la garder, il faut l'utiliser.
Vous avez une chance d'être devant ce micro. Dites-le à ces chroniqueurs qui s'en rendent pas compte.
Nous pauvres ingrats.
Mais oui, oui.
J'ai une chance. Ouais, c'est vrai.
Et alors avoir un physique aussi agréable, ça aide.
Je ne sais pas du tout si ça. Oui, je pense ça a dû fonctionner. En fait, nous on a. Les premières fois qu'on s'est fait reconnaître, c'était parce qu'on faisait des vidéos sur YouTube. Ouais. Et je pense que oui, l'image.
En duo.
Et l'image a dû.
Démarrer de là.
Ouais. Voilà.
On se sent tellement moche, nous, à côté.
Parle pour toi, moi, ça va.
Hein. Non, j'ai dit nous à côté. J'ai dit nous à côté, tous.
Vous deviez avoir un succès incroyable, genre quand on était. Parce qu'ado, on a tous galéré un peu boutonneux, etc. Mm. Mais vous, si vous saviez jouer la guitare, chanter, ça devait marcher grave.
Ouais. Bah, alors, ça s'est fait après l'adolescence. Ouais. Donc, c'était moins ingrat déjà. Et oui, c'est vrai qu'en plus, on avait toute la panoplie avec nous. Hein. On a commencé à jouer, on était sauveteurs en mer.
Il y a un concert un jour, quelqu'un vous a crié à poil plusieurs fois.
Exactement, ouais, c'était en Belgique. Et
une femme ou un homme ?
C'est une femme. Mmh. Et le concert commençait très solennel, avec du silence, un peu de gros son, mais de basse. Et la fille n'arrêtait pas d'hurler parce qu'on l'égorgeait.
Anne, qu'est-ce que vous faisiez
Bravo Anne. Et pour qu'elle arrête de crier, vous avez fait
donc,
quoi?
Et donc, j'ai le premier mot qui est sorti avant bonjour et la chanson, c'était ta gueule.
Elle l'a bien pris?
Je sais pas, moi, je me suis fait applaudir en tout cas.
Ça ira, va, t'inquiète pas, quand tu me le dis, ça marche sur moi. Je me dis que j'ai pas le choix, qu'avec les yeux que t'as, quand tu regardes la vie, on comprend qu'avec toi, il peut tout arriver. Ah, 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 il peut tout arriver. Ah, 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 ah. Rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes.
Votre ex, mais c'est votre ex, ouais, Florian Della Vega. Alors, il suit votre succès, il est content pour vous.
Ouais, carrément.
Parce que vous êtes restés très copains, amis même.
Bien sûr,
c'est votre meilleur ami.
On s'est vu, c'est un de mes meilleurs amis, carrément. Et on s'est vu cet été pendant la construction de l'album.
Et lui, il fait quoi maintenant? Il est retourné sauveteur en mer?
Non, sauveteur en mer, en fait, c'était vraiment un
job d'été.
Ouais,
vous avez sauvé beaucoup de gens quand vous étiez sauveteur en mer, Jérémy Frérot. Ah oui.
Ouais, bien sûr.
C'était où?
C'est hyper important cette place. C'est à la sortie du bassin d'Arcachon, une plage qui s'appelle La Salie, juste avant Biscarrosse.
D'accord.
Et on est assez important sur ces plages. Si on n'était pas là, je pense qu'il y aurait pas
Surtout qu'il y a beaucoup de vagues dans cette
région. Il y aurait pas mal de
problèmes. Donc qu'est-ce qu'il y a maintenant alors votre ex?
Il s'occupe.
C'est énorme. Votre ex-partenaire, là, on a compris.
Il s'occupe de sa maison. Il a pour projet de faire une maison autonome entièrement. Donc,
ouais, c'est genre un baba cool, guitare, machin.
Il est vegan, je parie, non?
Ouais, complètement.
Votre livre s'appelle Catherine Ney, Souvenir. Dans cet ouvrage, vous revenez sur votre parcours. Pourquoi maintenant? Parce que c'est le moment pour dire des choses que vous n'osiez pas dire avant.
Non, c'était mon. Pourquoi maintenant? Parce que il fallait que je parle un peu de moi, que j'ai du recul, que c'était pas si facile que ça, voyez? Parce que je suis une violette sous la mousse, je n'ai pas l'air, mais c'est difficile.
Ça veut dire quoi une violette sous la mousse?
Je ne sais pas, je suis.
Timide, non?
Mais il y a une forme, mais oui, mais plus que vous croyez. Pudique. En tout cas, c'est difficile en tout cas, de la pudeur, encore que ce livre ne soit absolument pas impudique. Et c'était mon éditeur avec qui j'en ai parlé souvent, Jean-Luc Barret, et qui, à force, m'a convaincue d'insister. Et je le remercie d'avoir insisté.
Alors, à un moment, vous êtes dans un train, Catherine Ney, vous êtes toute petite, et vous voyez une femme se mettre à la fenêtre et fumer. Et vous la regardez fascinée. Vous dites, je vais être comme elle.
Oui, j'étais avec ma mère et trois de mes frères qui gigotaient beaucoup dans le compartiment. Et je vois sortir à côté du compartiment une jeune femme qui devait avoir 20 ans, 22 ans. Moi, je devais avoir 13 ans à peu près, vous voyez. Et alors, elle était accoudée à la barre de cuir, parce qu'il y avait des parois. Il y avait un cendrier qui était posé sur la paroi du mur, du wagon, et puis elle avait ouvert comme ça, elle fumait. Et les effluves de ce tabac blond arrivaient à mes... Je trouvais que c'était une odeur merveilleuse. Et je voyais une fille qui était seule, qui maîtrisait sa vie, qui avait l'air d'être contente d'elle-même, qui regardait au loin, les gens la bousculaient, elle avait l'air de s'en moquer, elle était bien. Et je me suis dit, elle est libre, et que fait-elle? Je me suis dit, elle est journaliste, et moi je serai journaliste.
Mais vous ne saviez même pas si elle était journaliste.
Mais pas du tout, ma vocation est partie d'un fantasme. Alors comme je dis, je pourrais raconter pour bien faire que ma grand-mère m'avait parlé de Louise Weiss, qui était une suffragette, qu'elle avait été entendre à Tours, vous savez, la première femme qui réclamait le vote des femmes en France, où elle aimait beaucoup, elle avait été entendu parler d'Alexandra Davidnel, autre grande...
Et après, vous avez fumé comme elle, comme cette femme?
J'ai pas fumé longtemps, j'ai fumé des cools.
Ah bon?
Des cigares, des cools à la menthe, oui, un petit peu. Et puis après, quand j'ai eu ma première voiture, parce qu'une cigarette n'était pas posée, j'achetais des petits cigarillos avec un bout en plastique. Parce qu'il y avait à la fois le bonheur de mâchouiller du plastique, vous voyez, et puis c'était très mauvais, mais je ne sais pas, ça me donnait encore plus, j'avais encore plus l'impression d'être indépendante. Voilà.
Ça, c'est important pour vous, l'impression d'être indépendante.
Oui, je crois que c'est.
La liberté, l'indépendance. Oui.
C'est ce que je dirais maintenant, quand on me dira pourquoi tu fumes, je dirais pour être indépendant.
Oui, vous pouvez. C'est ça. Vous verrez si ça marche aujourd'hui.
On verra, ouais.
Alors, dans ce livre, Souvenir, Catherine, vous dressez des portraits des présidents, et vous n'êtes pas tendre avec Valéry Giscard d'Estaing.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que j'ai dit ce que je pensais. Voilà. Hein, non, mais je l'ai toujours trouvé ridicule. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est comme ça.
Ça mérite d'être clair.
Au revoir.
Voilà. Non, mais je veux dire, vous voyez, moi, je le voyais pendant que Pompidou était malade. Plus Pompidou grossissait, montrait qu'il était atteint par la maladie, on se demandait quand est-ce qu'il allait mourir et tout ça, et que vraiment il faisait peine à voir, et c'était très malheureux de voir cet homme dont l'Élysée disait qu'il allait guérir dès qu'il aurait pris 15 jours à Cajar. Vous voyez, on savait très bien que c'était pas vrai. Ils ont nié sa maladie jusqu'au bout, mais on voyait les journaux commençaient à dire, mais est-ce qu'il ne doit pas démissionner en juin? Enfin, c'était une ambiance de fin de règne très 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 lourde à porter pour des journalistes, parce qu'on ne pouvait pas en rajouter, en parler, on ne savait rien. Et plus Pompidou était malade, plus Giscard montrait son corps. Voilà, c'est-à-dire qu'on le voyait jouer, il jouait au football, Et alors il courait, mais vous voyez, moi je disais, il avait inventé le naturel guindé, parce que vous voyez courir, on dirait une girafe, vous voyez, il a des grandes jambes et tout ça, il n'est pas fait pour courir rapidement, c'est pas Mbappé, vous voyez.
Giscard, c'est pas Mbappé.
Vous voyez, donc, et tout ce qu'il faisait, bon...
Pourtant, il plaisait aux femmes, Giscard.
Allez, Didi, beaucoup allez, Didi.
Il plaisait aux femmes, mais même les Français, ils trouvaient que c'était jeune, que c'était nouveau, il skiait en pull et en cravate. Je me disais, mais il n'a pas froid, oui, parce que quand même. Oui, il faisait des tas de choses comme ça pour montrer. Et avec lui, le corps est entré en politique. C'est-à-dire, dès qu'il a été élu, il s'est montré carrément en maillot de bain, il a été plongé, il a dit, regardez comme je suis beau, j'ai des longues
jambes. Et vous, il ne vous a jamais plu, Catherine?
Pas du tout, non.
Et il a essayé de vous séduire?
Pas du tout.
Pas du tout. Non. Ça ne s'est jamais passé le contact entre vous et Giscard d'Estaing?
Non.
Il y a toujours
Non, mais avec aucun d'ailleurs.
Hein. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais il n'y a, oui. a pas eu de sympathie, de feeling.
C'est-à-dire que je le trouvais intelligent. C'était un cérébral qui vous disait des choses. Puis de temps en temps, quand il venait à la télévision, vous savez, avec son œil mongol, il vous regardait comme ça, droit dans les yeux.
C'est quoi? Ça veut dire quoi, l'œil mongol?
Non, c'est pas bim, c'est comme ça. Vous voyez. Non, vous voyez, vous regardez, vous disiez, je vais vous expliquer. La PAC, ce sera le 15 avril. On dit, tiens, j'y avais pas pensé. Vous voyez, il faisait des choses profondes comme ça. Et non, mais on l'admirait. Il a été un grand Européen. Il a voulu moderniser la France. Il a fait des.
Vous racontez une anecdote, vous dites, qui est très symbolique sur lui, qu'il se faisait livrer du thé, des petits gâteaux secs, et qu'il n'en donnait pas à ses collaborateurs.
Oui, mais ça, c'était du temps, vous voyez, c'était quand il était ministre des Finances sous Pompidou.
Ça, c'est un manque de savoir-vivre, de ne pas partager.
C'est d'une mufleurie sans nom, oui. Non, ça, c'est sûr.
Alors vous racontez que Chirac, il partageait tout ce qu'il mangeait avec tout le monde.
Voilà, il offrait des sandwichs, même à ceux qui n'avaient pas faim, c'est sûr. Voilà.
Et les gens étaient obligés de les manger, du coup?
Non, pas du tout. Non, mais voilà, c'était un autre caractère, vous voyez. Non, non, je n'aimais pas le personnage, vous voyez. Je trouvais que Giscard était intelligent, qu'il a fait avancer la cause européenne, mais que, vous voyez, humainement,
c'était
il valait pas un coup de cidre. Oui, voilà.
Alors Catherine Ney, il y a plein d'anecdotes dans ce livre. Vous êtes en voiture après un mariage avec Daniel et François Mitterrand. Et là, il y a une ambiance épouvantable dans la voiture. Ils ne s'adressent pas la parole et il y a un chien qui vous mord.
Je vais à un mariage dans l'Allier d'une amie. Et j'avais pris le train pour y aller, j'avais pas pris ma voiture et je devais prendre le premier train à 19h. Et elle m'avait dit, écoute, non, reste un peu plus. J'ai demandé à Mitterrand, il est d'accord pour te ramener. Donc je me retrouve en voiture pour faire l'Allier Nevers-Paris.
Et il y avait un long trajet.
Un long trajet. Il y avait Daniel qui m'a dit un bonjour un peu sec. C'est vrai que j'étais pas partie, je faisais pas partie de leur monde habituel. Puis il y avait ce chien, un vieux teckel lip, qui m'a vu me glapisser, me regarder en montrant les crocs et tout ça. On s'installe en voiture, plouf! Il vient me donner un coup dans la cheville, plaf, il me mord. Alors, moi, j'étais terrorisée. Mitterrand était à l'avant, ne disait rien. Dit, ne s'est pas excusé en disant, ne craignez rien, mon chien n'est pas bon. On part, personne ne parlait. Vous savez, en général, après un mariage, quand on connaît les gens, on se parle, vous connaissez la mariée.
Comme elle était mal foutue, celle-là.
On dit du mal,
voilà.
Ouais.
Non, voilà.
Mais
non, mais on peut dire du bien aussi. Oui,
vous voyez, vous avez. On dit du mal.
Non, mais parce que vous avez un mauvais esprit.
T'es une mauvaise personne, Jean-Philippe. C'est pas moi, c'est les autres.
Non, mais donc, ils ne disaient rien.
Il n'y avait rien à bouffer. Excusez-moi.
Oui. Donc, moi, je ne savais pas quoi leur dire. Ils ne disaient rien. Puis à un moment, le chien vomit. Donc, des odeurs. Alors,
même le chien critiquait le mariage, vous voyez.
Je sors. Pour respirer, et Daniel avec le chauffeur nettoie. Et François Mitterrand avait pris un livre à l'avant, n'est pas sorti, attendu, et on est reparti, pas un mot. Et moi je me disais, oh là là, c'est parce qu'il pense que je suis gaulliste, faut pas parler aux gaullistes, le chien est dressé pour mordre les gaullistes. Ah, enfin, oui. Je faisais un peu de parano,
c'est un
comme
chien
ça.
De gauche.
Et en fait, avec le recul, vous voyez, on était à l'époque en 77, je crois, non, 76. Et Mazarine était née en 74. Elle devait avoir Non, c'était 75, pardon. Mazarine était née en décembre 74. C'était 6 mois après. Et là, après, un des fils Mitterrand racontait que tout de suite, sa mère a appris la naissance, que François Mitterrand ne le lui avait jamais dit et qu'il y avait une tension dans le couple terrible, qu'elle attendait qu'il lui parle et lui ne lui parlait pas, vous voyez. Et on sentait cette espèce de non-dit et de ce qui pesait sur le couple.
Et vous, je vais vous dire... Tout ça.
Comment ?
Et vous étiez au milieu de...
Moi, j'étais au milieu de tout ça, sans savoir. Mais je veux dire, c'était pesant, parce qu'une scène de ménage, après c'est comme un orage, ça éclate, c'est fini. Après, tandis que là, le silence...
Ça n'avait pas encore éclaté.
C'est beaucoup plus violent qu'une des paroles, voilà. Et pendant tout le trajet, pas un mot. Alors dès que j'ai vu une lumière Paris, la première station de taxi, je les ai remerciés, je me suis dit... Oh, je m'en vais. Merci.
Catherine Ney, qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron ?
Moi, je pense qu'à 40 ans, un homme n'est pas fini.
Merci.
Vous avez totalement raison.
J'ai 40 ans.
Écoutez, mais JP, vous avez totalement raison. C'est vrai, je me sens complètement pas encore accompli.
Oui, à améliorer, accomplir. Bon, écoutez, c'est
un néo... À quel âge un homme est fini, Catherine
Ney ? Ça dépend, c'est individuel. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est vrai que... c'est un garçon qui est hors norme à tout point de vue, par
Emmanuel
son parcours,
Macron, ouais.
Oui, par son intelligence, par cette ductilité intellectuelle, mais c'est quand même quelqu'un
Ductilité intellectuelle, c'est quoi ductilité ?
J'ai pas osé demander.
C'est rapidité, c'est, vous voyez, pointu, là. Ouais, quand vous le voyez, il a une capacité, c'est un type qui travaille énormément, qui est...
Et vous dites qu'il ne touche pas les gens.
Oui, c'est quelqu'un qui vous impressionne, mais qui impressionne les étages supérieurs, là, vous dites, là, c'est quand même...
Le cortex. Puis,
voilà, mais qui ne vous touche pas...
Il n'y a pas d'émotion.
Pas, voilà.
Comme Giscard. Comme Giscard.
Un peu comme Giscard, mais Giscard méprisait les gens, était hautain, en plus, vous voyez, c'était... Il y avait quelque chose qui...
En tout cas, s'il nous écoute...
Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron peut être un peu cassant. Il essaie de s'améliorer.
Alors, on a Emmanuel Macron qui est là, Catherine Ney.
Oui.
Pour vous.
Bonjour Anne Romanoff, mes chers compatriotes, vous n'avez pas eu trop de mal à venir, c'est normal, c'est bouffé. Ma chère Catherine Ney, même si je brille par ma précocité, vous ne m'avez jamais interviewée. Pourtant, j'en aurais eu des choses à vous raconter sur les Français et cette route qu'ils ne veulent jamais traverser, sur les Gilets jaunes et ma démission qu'ils ont réclamée, sur Castaner et ses pas chaloupés, sur la CGT, la CFDT, les retraités, sur la RATP... Et cette musique qui cause à Édouard Philippe tant de problèmes cutanés. Catherine Ney, je n'étais pas née quand à Europe 1 vous êtes arrivée. Mais mon parcours, vous auriez certainement fait un très bon papier. Et à la différence du chien de François Ier, soyez assurée que le mien n'aurait jamais rendu sur vos souliers. Catherine Ney, être interviewée par vous aurait été mon projet. Je préfère ne pas crier pour ne pas énerver ma prof d'anglais. En tout cas, ce fut un plaisir de vous slammer. Et je terminerai sur ces quelques mots que vous avez contribué à sublimer. Liberté, égalité, fraternité.
très drôle.
Écoutez, c'est le plus grand éclat de rire que j'ai eu.
Alors, il est comme ça, Emmanuel Macron, Catherine Ney?
Chacun en a sa vision et celle qui vient d'être décrite, il est un peu comme ça aussi. Quand vous le regardez sur la scène internationale où il parle l'anglais aussi bien que, qu'il parle le français, il est impressionnant, quoi. Mais,
on n'a pas été habitué à ça, quoi.
Pas du tout, vous voyez. Macron, 2 ans avant d'être élu, personne ne le connaissait, personne n'en avait entendu
parler.
Donc
ça a été trop vite.
Et en plus, il a eu beaucoup de chance, parce que s'il n'y avait pas eu la jalousie de Valls, qui ne voulait pas qu'il présente sa deuxième loi, Macron, il l'a donnée à Madame El Khomri, et cette loi qui a été préparée par Macron a été abusivement appelée la loi El Khomri. La pauvre femme y était pour rien. Ouais. Elle a défendu une loi qui avait été concoctée par Emmanuel Macron. Et si c'était Emmanuel Macron qui s'était battu, avec les manifs qu'il aurait eu, il n'aurait jamais pu être candidat. Ouais. Donc c'est Valls qui, croyant lui jouer un mauvais tour, là, lui a offert l'élection sur un plateau. C'est ça qui est extraordinaire, vous voyez.
On ne le savait pas.
Et oui.
C'est fou.
Et entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, vous les avez rencontrés les deux, j'imagine.
Oui. Nicolas Sarkozy, beaucoup.
Vous avez fait 2 livres sur Nicolas Sarkozy, rien sur Hollande.
Mais parce que...
Il n'y a rien à dire.
Même pas un tweet.
C'est pas qu'il n'y avait rien à dire, mais si vous voulez... J'avais un peu un encéphalogramme plat.
Oui, je vous en prie.
Pourquoi non, c'est dur de dire ça, Catherine Ney.
J'ai écouté Europe 1. Comment? Et j'ai été blessée.
Non, mais voilà.
Vous n'avez pas accroché avec François Hollande.
Mais c'est pas ça. C'est un homme très sympathique. Avec qui, pour un dîner, c'est agréable de dîner avec lui, franchement. Ouais. Je n'ai jamais dîné avec lui, mais j'ai déjeuné avec lui. Il est disert, agréable, il a des histoires à raconter. Mais vous ne vous dites pas, tiens, comme il méprise l'avenir, comme il a analysé, comme il sait des choses. Vous voyez, il était très bien comme premier secrétaire du Parti Socialiste. Et comme, moi, je pense, quand Bernadette Chirac avait dit « il n'a pas l'envergure », je ne sais pas si je peux dire ça à l'antenne, tout le monde va l'ailleurs. Mais moi, je le pense, c'est vrai. Il n'avait pas tout à fait l'envergure. Voilà.
Mais vous préfériez dîner avec lui qu'avec Giscard?
Pour rire, oui.
Bonjour, Harry Habitant.
Bonjour, Anne Romanov. Quel plaisir. Vraiment.
Depuis que vous êtes rentrée dans le studio, les femmes n'ont de yeux que pour vous. Vous vous rendez compte?
Oui. Mais regardez. J'ai pas vu. Ils sont où les yeux? J'ai pas vu.
Ils sont où les yeux?
Totalement oublié.
Vous vous rendez compte de l'effet que vous faites aux femmes?
Non, alors là, vraiment pas.
Non, c'est vrai?
Non, pas du tout. Non, mais c'est toujours très agréable en même temps. Hein. Mais en général, on choisit pas ce métier pour ça. Comique, c'est toujours compliqué quand t'es comique.
Pour un mec, c'est plus facile.
Maintenant,
bah
femme
pour une
qui
femme.
Rit,
Oui, mais à moitié. Mais j'ai plein de moitiés.
C'est l'autre moitié qui est difficile.
C'est l'autre moitié qui est pas compris, qui est pas facile.
Alors que homme qui rit, à moitié hors du lit. Donc c'est aussi l'autre moitié. Harry Habitant, vous êtes né à Paris, mais vous êtes un petit banlieusard de Sarcelles, ville multiculturelle de banlieue, longtemps administrée par Dominique Strauss-Kahn. Et vos parents ont fait comme la plupart des Parisiens qui ont des enfants, ils ont traversé le périph' pour avoir plus grand. Fallait beaucoup de mètres carrés pour vous contenir, Harry Habitant.
C'est exactement ça. Pourtant, on n'était que deux. Hein. J'étais qu'avec ma sœur, mais il nous fallait un petit peu plus d'espace. Ouais. Je criais, je dansais tout le temps, toute la journée.
J'imagine qu'enfant, vous étiez hyper actif, non?
Complètement. Ma mère, elle me disait, on pouvait aller chez personne.
C'est-à-dire
que quand on allait chez la famille, quoi, c'était tu viens avec Harry? Ben oui, tu veux que je le laisse? Et j'arrivais. Dès que j'arrivais, la famille regardait la télé, j'éteignais la télé tout de suite. Pour dire genre, regardez-moi, quoi, ça voulait dire ça. Genre, attention, j'arrive.
Et après?
Plein de conneries, j'arrivais avec des cadenas. Et je cadenassais les lacets de mes oncles, Ouais.
Ah ouais?
Ouais, c'était formidable, hein. J'ai toujours des petits cadenas, d'ailleurs. Là.
Alors, vous êtes issu d'une famille maroco-tunisienne.
Ouais.
Votre père, Albert.
Mon père, Albert Habitant, oui.
Marocain et votre maman, Marlène, tunisienne.
Exactement.
Ouais. Comment ça se passait? Il y a des différences entre les Marocains et les Tunisiens?
Énormément. C'est vraiment...
C'est quoi les différences?
Différences culinaires, différences culturelles, différences de caractère, différences d'éducation. Moi, toute ma vie, j'ai entendu des histoires que sur « regarde Marocain, regarde les Tunisiens, et regarde que toi, comment tu es ». C'est fou, c'est magnifique.
Donc les Marocains disent du mal des Tunisiens?
Je sais pas. En tout cas, ma mère disait du mal de mon père. Et... Bon voilà, c'était des querelles d'amoureux, qui ne sont plus d'ailleurs, puisqu'ils sont divorcés. Oui, parce que mon père...
Ah oui ?
Mon père, c'est le seul père au monde qui a tout voulu faire comme son fils. C'est-à-dire qu'il a voulu divorcer en même temps que moi. On s'est retrouvés célibataires.
Ah, il a divorcé très tard.
Ouais, il a divorcé après 40 ans. C'est un truc qui n'a aucun intérêt.
Et elle s'y attendait ou pas, votre mère?
Ma mère, pas du tout. Elle m'a dit, mais il est où?
Il n'est pas rentré, je crois.
Mais c'est à cause de vous, c'est votre mauvaise influence?
Non, alors ça, c'est ma mère qui veut me faire croire ça. Et tu sais, la culpabilité, mais moi, c'est à cause de vous. Hein.
Mais la pauvre, au bout de 40 ans, comment elle a trouvé un nouveau mec, votre mère?
Pas pour l'instant, pas à ma connaissance, mais.
Et votre père?
Mon père, ouais, on s'est retrouvé célibataire en même temps, donc il venait en boîte avec moi.
Mais non.
Enfin, il me rejoignait en boîte. Et genre, c'était, il allait en boîte après 40 ans qu'il a, il a plus été en boîte. Donc il s'habillait tout en blanc. On dirait un coton-tige qui arrive vers moi. Il draguait. Vous savez qui je suis ? Je suis le père d'Harry Habitant. Une femme, elle lui a dit « Ah ouais, ben je peux pas le voir. »
Harry Habitant, vous avez vendu des fruits et légumes sur le marché de Sarcelles ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je vendais plein de choses au marché de Sarcelles et je travaillais en face d'un gars qui vendait des fruits et légumes.
Mais il l'aidait.
Et je l'aidais.
Non, mais vous vendiez quoi ?
Je sais pas, des habits, des, j'avais 17-18 ans, quoi. D'accord. C'était des
Et il y avait un mec qui vendait des fruits et légumes en face de vous ?
Il vendait des clémentines, ouais. Et des en fait, j'adorais, parce que ma passion, c'est de crier, vous savez, ouais. Normanov. Et j'entendais le gars dire « Allons-y dans la clémentine, allez, allez, allez !» Et à la fin, je gueulais très fort, comme ça. « Allons-y dans les poireaux, la clémentine, allez !» Les gens m'achetaient rien.
Ça veut dire
à
quoi
la goutte.
À la ça veut
goutte.
Dire quoi, la goutte ?
À la goutte, c'est-à-dire que t'as le droit de la goûter, la clémentine, avant de l'acheter. Ouais. Allons-y dans la clémentine, 10 balles le kilo. Ouais. Les gens m'achetaient rien que pour que je ferme ma gueule.
Alors, vous n'avez pas été très assidu à l'école, Harry Habitant, et pour gagner vos vies, vous devenez taxi comme votre papa à 20 ans. Vous avez été un des plus jeunes taxis de France.
J'étais chauffeur de taxi la journée, et le soir, j'ai accumulé les cabarets de Paris. J'avais 10-20 minutes de sketch, et que je jouais un peu partout. Je garais le taxi.
Il y a cette fameuse anecdote, vous aviez une cassette audio de vos sketchs, et vous les faisiez écouter aux gens dans le taxi pour voir s'ils rigolaient.
Non, en leur faisant croire que c'était Rire et Chanson.
Ils rigolaient ou pas ?
Ils entendaient très mal. Il y avait la voix de ma mère qui disait « Viens manger !» J'avais envie de monter sur scène. C'est comme une survie. J'avais envie d'écrire, de jouer. J'avais
et donc,
envie de ça.
Donc, il y a eu les spectacles. Et il y a eu ce carton du film « Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu ? » 12 millions de spectateurs. Ça a changé votre vie, Harry Habitant.
Oui, bien sûr. Mais c'est un miracle. C'est plus que ça. Hein. 12 millions et demi en France, 20 millions... dans tout le monde entier.
Les gens vous en parlent dans la rue, Harry Habitant ?
Ouais, régulièrement.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Rien, merci, c'était super, on s'est régalé. On s'est aperçu quand on a tourné ce film dans toute la France que beaucoup de familles françaises vivaient ça, en fait. Ça a été une rencontre incroyable avec le public, avec ce film.
Vous êtes un grand fan du PSG, depuis toujours ou juste depuis qu'il gagne ?
Ah bah regarde, c'est simple. Hein. Mon père donc est chauffeur taxi depuis 1978. Je vais au Parc des Princes depuis à peu près 84.
Il avait une astuce pour faire rentrer votre père.
Exactement. Je travaillais toute la journée avec lui.
Votre père en taxi ?
Avec mon père, donc j'étais devant. J'avais 10 ans. J'avais ce bonheur de travailler avec lui.
Vous étiez là, il vous gardait dans le taxi.
Mais il me disait, viens travailler avec moi. Il fallait que je passe la conversation avec les gens derrière. Et j'avais le pourboire. C'était moi qui récoltais tous les pourboires.
D'accord.
Et ça, c'était incroyable. À partir de 17h, on allait manger une crêpe sur les grands boulevards. Cette crêpe au sucre, je la mangeais jusqu'au Parc des Princes. Arrivé au Parc des Princes, il me dit, passe derrière maintenant. Donc je passais derrière sur la banquette arrière parce qu'on arrivait devant le barrage, la sécurité. Et en fait, il disait au gars de la sécurité, je dois rentrer à l'intérieur pour arriver le plus proche du Parc des Princes au parking. Il y a son père qui m'attend là-bas. Donc le petit, il faut absolument qu'il aille rejoindre son père. Et moi, avec ma crêpe aussi comme ça, j'ai dit oui. Et on passait tous les barrages et on avait notre place pour le Parc des Princes. C'était des souvenirs inoubliables.
Vous dites, My Story, j'ai mis 42 ans et 6 mois à l'écrire, c'est moi en autodérision ?
Oui, je n'ai fait que vivre ma vie, la raconter. C'est
un spectacle plus personnel que celui d'avant ?
Oui, le spectacle d'avant, je me cachais un peu derrière des personnages, mais je parlais de moi en fait, c'était des gens dont j'avais peur.
Là, vous y allez, vous parlez de vos parents, de votre divorce, vos filles, tout y passe.
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que vous racontez sur le divorce, Harry Habitant ?
Je raconte que ma mère a tenu absolument déjà à assister à mon jugement de divorce, et qu'au moment où le JAF a prononcé « Monsieur Habitant, vous êtes maintenant officiellement divorcé », ma mère, elle s'est levée, elle a regardé tout le monde et elle a fait « Oui !»
Non mais ça, c'est pas vrai. Vous avez 3 filles, Harry Habitant ?
Oui.
Elles adorent leur papa, j'imagine ?
Ouais, j'espère.
Ouais. Et vous dites, ça fait beaucoup de sacs à main, d'ongles, de maquillage, de shopping.
Ouais, et beaucoup de... Je sais pas, j'ai l'impression que les filles, elles ont du mal plus à se lever. Ce matin, par exemple, la petite, non, mais le réveil ne s'est pas levé. Mais pourquoi toi, ton réveil, à toi seulement ?
Mais là, c'est les vacances, là.
Là, non, c'est pas les vacances.
Mais si, c'est les vacances.
Ah, si. On l'avait réveillé.
Faut arrêter
rien,
de les emmener à l'école.
C'est pour ça.
Faut arrêter de les déposer le matin, ils ne les prendront pas.
Mais non. Vous l'avez réveillé en pleine vacances ?
Vous n'avez pas vu qu'il y avait moins de devoirs en ce moment ?
Oui, j'ai réveillé, j'ai dit, après j'ai claqué la porte. Mais en fait, c'est les vacances.
Mais oui, c'est les vacances.
Ah, c'est pour ça, bah voilà.
Juillet, août aussi, il ne faut pas les emmener.
Il ne faut pas les emmener aussi. Hein. C'est incroyable, je sais.
Vous dites que vous essayez d'être un papa rigoureux quand même ?
Je vois ça,
Jean-Philippe Vizini, vous avez des choses à dire à Harry Habitant ?
Oui, bah oui. Parce qu'on a, on a finalement plus ou moins le même parcours, Harry, et c'est vrai. Hein, plus ou moins. On a commencé le One Man Show en même temps, vous vous souvenez, Harry ?
Tu cries aussi fort que lui, par contre.
Oui, c'est pour ça qu'on se lui.
Mais il est pas tunisien pour toi.
Non, c'était en 2009, au petit Palais des Glaces. Vous vous souvenez, Harry ?
Bien sûr.
À cette époque-là, je me rappelle, je venais au théâtre en bus. Il y avait plus de monde dans le bus que dans le théâtre. Alors ensuite, vous êtes parti faire le tour de France pour remplir les plus grandes salles. Et moi aussi, j'ai fait le tour de France. J'étais dans la caravane du tour, moi. J'étais au stand Cochonou, je distribuais des saucisses déguisées en cochon. Pour vous, ça a été le cinéma. Voilà, le cinéma. Vous avez joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? L'histoire d'une famille qui a du mal à accepter son gendre. Moi aussi, ma belle famille, elle a eu du mal à m'accepter.
Tu m'étonnes.
Je me rappelle, quand on leur a annoncé qu'on allait se marier, ma femme, bonjour papa, bonjour maman, moi, bonjour beau papa, bonjour belle maman, eux, bonjour ma fille, bonjour trou duc. Ma femme, alors, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Hier, on a été au cinéma et en sortant, Jean-Philippe m'a demandé en mariage. Ah bon ? Vous avez été au cinéma ? Ensuite, vous avez joué dans Les Visiteurs 3, La Révolution. Vous aviez le rôle de Lorenzo Baldini, marquis de Portofino. Et ben moi aussi. Les gens ne le savent peut-être pas, mais j'ai joué dans Les Visiteurs 3. Un petit rôle. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une scène en arrière-plan avec des figurants déguisés en paysans qui tirent un âne. Alors, on ne me reconnaît pas parce que j'étais bien déguisé, mais c'est moi qui faisais le rôle de l'âne. Vous avez joué ensuite dans Débarquement immédiat, l'histoire d'un flic de la police des frontières qui ramène un gars dans son pays, sauf que c'est pas le bon gars et c'est pas le bon pays.
Exact.
Moi aussi, il m'est arrivé un truc pareil. L'autre fois, je suis allé chercher ma femme au boulot pour l'emmener au resto. Et ben, je me suis gouré, c'était pas la bonne femme. Mais j'ai eu de la chance parce que c'était le bon resto. Ah, vous voyez, Harry Habitant, on a plus ou moins la même vie, donc j'ai une question à vous poser. Vous comptez faire quoi en 2019 ? C'est juste pour savoir ce qui va m'arriver.
Alors, Harry Habitant, il paraît qu'à Sarcelles, des fois, vous y avez des bagarres.
Des bagarres ?
Oui, et que vous échappiez aux bagarres en faisant des roulades. C'est quoi cette histoire ?
Non, c'est-à-dire que oui, évidemment, on était dans une banlieue où, parfois c'était un petit peu compliqué. Mais non, moi, mon moyen de communication, c'était toujours de faire rire, en fait. C'était la charriade. Et quand il y en a un qui voulait se bagarrer, j'ai dit d'abord, on fait une roulade. Voilà, n'importe quoi. C'était pour calmer le truc comme ça tout de suite. D'ailleurs, quand on m'a proposé le bon Dieu, c'était un peu une Madeleine de Proust pour moi, d'être en bas de la tour avec tous mes potes multiculturels.
C'est ce que vous aviez vécu en vrai ?
C'est exactement ce que j'ai vécu, ouais.
Léa Landau a des petites questions à vous poser. Harry Habitant.
Oui, je vous en prie, Léa Landau.
Harry Habitant. Alors, c'est vrai que quand je dis à mes copines, je reçois Harry Habitant, alors Claude Lelouch, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, My Story. Il est sur tous les fronts. À chaque fois, elle me dit, mais sauf le mien. Sinon, ça voudrait dire que nos lèvres ne seraient plus qu'à quelques centimètres. Vous en faites rêver des femmes, Harry Habitant. Alors, j'avais préparé plein de questions, puis je me suis dit, non, plutôt que de préparer moi-même des questions, je vais lui faire une interview. Qu'est-ce qu'on a fait au bon vieux pote, en demandant à ses potes de poser eux-mêmes des questions. L'un s'appelle Noum Diawara, l'autre Frédéric Chaud, et enfin, le dernier, Mehdi Sadoun. En résumé, vos trois acolytes de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Donc vous êtes obligé de répondre à toutes les questions. Prêt, Harry Habitant ?
Allons-y.
On commence avec Mehdi Sadoun.
Harry, mon frère, est-ce que tu peux raconter l'histoire de la fille à qui j'ai demandé mon chemin quand j'étais en voiture à Djerba ? Je te laisse faire.
À Djerba ? Il m'a raconté un truc magnifique. Il était à Djerba en voiture et puis il demande à une Tunisienne, une très belle femme, tu vois, avec un petit accent. Donc il lui dit comment je fais pour rejoindre l'hôtel ? Alors il dit c'est très simple, vous allez toujours tout droit. Et après, il y aura un feu rouge. Et là, pour lui dire tout droit, il lui dit « Et au feu rouge, vous faites « Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr tué de rire. C'est-à-dire que le naturel est revenu, tu vois. Il a voulu lui dire, bon, ça m'a tué de rire, ça m'a fait rire.
Oui, vous a laissé un petit message, Mehdi Sadoun, et après on passe aux questions de Noum Diawara.
Je voulais juste te souhaiter un gros merde pour ta tournée, pour ton spectacle, parce que t'es mon frère et parce que tu déchires et parce que t'as le cœur que tous les gens ils ont besoin, qu'il faut avoir pour le bonheur et le bon dans la vie. À bientôt, mon frère. Et bonjour à tous.
Merci, Mehdi.
C'est
C'est une amitié très forte, vous et Mehdi Sadoun, Harry Habitant. C'est une amitié très forte, vous et Mehdi Sadoun.
Oui, on s'aime beaucoup. Il y a quelque chose de très fraternel, de comment vous dire. Chaque fois qu'on se voit, on se prend dans les bras, on s'embrasse, vous, on dit des conneries.
Vous pourriez peut-être faire un spectacle tous les deux. Vous n'avez pas pensé?
Moi, j'adorerais déjà que lui monte sur scène. Il a un immense talent. Il me tue de rire. C'est quelqu'un de vraiment très talentueux.
Alors, on continue avec Noum Diawara.
Harry, te souviens-tu de la cantine de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1 et de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2? Quelle cantine tu préférais et pourquoi?
Évidemment, je crois que je préférais celle de la 2. Bon, la cantine de la 1, non, c'était une anecdote où, en fait, le gars, quand il nous servait l'assiette, et il nous aimait beaucoup, alors il était un petit peu nerveux. Il mettait les 4 doigts dans l'assiette pour se servir comme ça. Genre, il est arrivé, il t'a dit, voilà, c'est à vous, merci.
Les 4 doigts,
gras. Oui, comme ça. Ouais, 4 doigts. Après, il t'a dit, vous voulez de l'eau? Oui, bien sûr.
Les doigts dans le verre.
Les 2 doigts dans le verre. Bon, c'est pas très radiophonique, mais bon.
Frédéric Chaud aussi a quelques questions à réhabitant.
Oui. Quelle est ta réplique préférée dans le film et ta vanne préférée dans ton spectacle?
Ah bah dans le film, c'est simple, hein. C'est quand je lui dis dans les 2 films, suce-boule en chef.
Suce-boule en chef.
Ouais, dans le 1, ouais, parce qu'en fait, à chaque fois, il veut raccompagner Clavier et Chantal Lobby, il veut à chaque fois leur faire des courses. Alors, on le traitait en tant que les beaux-frères en disant suce-boule en chef. Ouais.
Et dans le spectacle, votre réplique préférée à rien du temps?
Après mon divorce, donc j'ai essayé de retomber amoureux et puis j'ai provoqué un peu des rencontres, quoi. Et j'ai provoqué peut-être un peu trop de rencontres. Et je me souviens qu'on était au mois de janvier, un pote m'a dit « Alors t'en es où niveau femme ?» Je lui dis « Je suis complet jusqu'à fin juin. »